Très bon réveil, il est 6h57 sur Europe 1. Merci à ceux qui nous suivent depuis 5h. Sébastien Krebs a pris place jusqu'à 9h. Bonjour Sébastien.
Bonjour Théo Manval, merci à vous d'avoir réveillé nos auditeurs depuis 5h du matin. À demain.
À demain.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner sur Europe 1 ce matin. On vous raconte le monde qui change. Et voilà quelque chose qui a bien changé. Voilà l'un des sons du monde d'avant. Quand revivrons-nous l'ambiance des salles de spectacle ?
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient.
Le groupe IAM remonte sur scène le mois prochain. Et plus qu'un concert, c'est une expérience scientifique qui se prépare. Vous avez peut-être entendu parler de ces concerts tests. Et bien ce matin, vous allez tout comprendre. Qui sera dans le public ? Dans quelles conditions ? Les spectateurs seront-ils testés ? Je reçois ce matin l'un des médecins qui est en charge de ce protocole très précis. Il va nous l'expliquer. Il y aura des spectateurs positifs au Covid dans la salle pour que l'expérience soit réaliste. Il va tout nous détailler tout à l'heure. Le docteur Vincent Estornel est l'invité du tête-à-tête à 7h40. Et puis, vous verrez ce matin que les médecins généralistes ne se précipitent pas pour vacciner avec le sérum d'AstraZeneca. Notre enquête à 8h. Et le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer, face à Sonia Mabrouk, à 8h15. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour.
Qu'est-ce que ça donne pour le temps aujourd'hui ?
Ça donne déjà quelques températures, si vous le permettez, pour ceux qui sont en train de s'habiller. Pour certains d'entre vous, elles sont froides. 2 degrés à Lyon, 5 à Lille, 6 à Bourges, mais il fait déjà 8 à Paris, 9 à Marseille, 10 à Toulouse, 11 à Cognac et 12 à Bordeaux. Même 16 degrés à Biarritz. Une zone de pluie traverse la France. Alors c'est une zone de pluie qui s'est scindée en deux. La première partie est déjà sur la Manche, elle est déjà aux confins de la région parisienne. Elle va passer très vite. La seconde est encore sur la Bretagne, mais seront touchées à un moment ou l'autre de la journée pratiquement toute la France, excepté le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, le Mâconnais, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté qui seront concernés un petit peu plus tard. Mais si vous habitez les autres régions, prenez de quoi vous abriter, vous en aurez besoin. Sur le bassin méditerranéen, ce sont des bruines marines et donc ce type de temps, on le connaît. On sait que c'est pas très sympa, mais enfin, les bruines marines remontent pratiquement jusqu'à la vallée du Rhône, presque jusqu'à en Ardèche, j'en ai trouvé, si je puis dire, en les cherchant bien, à Aubenas. Et nous avons, dans l'après-midi, nous aurons des températures, ma foi, sympathiques, 12 degrés à Caen, 13 à Paris et Nancy, 14 à Lyon, 15 à Marseille, 16 à Biarritz, 17 à Nevers, 18 à Bordeaux, 20 degrés à Castres et à Pau. Et je vous parlerai tout à l'heure de la suite. C'est pas mal du tout.
À tout à l'heure, juste avant 7h30, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue, bon réveil, tout de suite le journal. Il est 7h sur Europe 1.
Tout se joue en 7 minutes, tout est automatique. Vous savez, vous arrivez à 20 000 km/h et il faut se poser à 1 ou 2 km/h. Donc il faut réduire la vitesse coûte que coûte.
On les appelle les 7 minutes de la terreur, le moment juste avant l'atterrissage du robot de la NASA sur Mars. La mission commence ce soir et pour en parler, nous serons en direct avec le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. À la une également, Georges Tron, condamné à 3 ans de prison ferme pour le viol d'une ancienne collaboratrice à la mairie de Draveil. Et puis le monde de la culture qui retient son souffle. On saura aujourd'hui si les grands festivals de l'été pourront se tenir ou pas. A priori oui, mais sous condition. Dossier détaillé à la fin de ce journal. Je salue l'équipe du 7-9 qui s'installe. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Sébastien.
Votre regard international après le journal.
On va parler du Rwanda, le pays où tout le monde ment, où celui qu'on prend pour un héros est en fait un salaud. On va parler du tyran et des dissidents.
À tout à l'heure, 7h15. Virginie Fulpin est en pleine forme.
Bonjour. Ça va très bien, bonjour.
On parle de quoi ce matin ?
On parle de la magie du tennis, et la magie du tennis c'est sa cruauté en fait. Une balle ratée, une seule, et un match peut basculer. C'est ce que Rafael Nadal a expérimenté à ses dépens à l'Open d'Australie contre Tsitsipas. Et c'est ce genre de moment qui rend le tennis unique.
À tout à l'heure, l'édito sport, 7h20, le 7-9 démarre. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal avec vous, Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
470 millions de kilomètres en 7 mois. C'est la fin d'un long voyage ce soir pour Persévérance, le robot de la NASA qui va se poser sur Mars.
Oui, une mission qui représente des décennies de travail, des milliards de dollars. Pour répondre à cette grande question, y a-t-il eu une vie ailleurs que sur la Terre ? La planète rouge est aujourd'hui froide et sèche, mais il y a 3,5 milliards d'années, l'eau coulait à flot. Les échantillons prélevés permettront d'en savoir plus, mais ce qui est sûr, lors d'Autriche, c'est que ce soir, un peu avant 22h, nous allons vivre un moment historique.
Oui, le robot à 6 roues baptisé Persévérance est le plus gros jamais envoyé sur Mars. Il doit se poser dans un cratère qui était dans le passé un lac rempli d'eau donc. Il y a 3 milliards d'années, des microbes, des bactéries ont pu se développer. Il en reste peut-être des traces. Ce robot va prélever des échantillons dans des tubes et on tentera de les rapporter sur Terre dans quelques années. Mais l'atterrissage sur Mars est en effet très délicat. On appelle cela les 7 minutes de terreur. Une mission sur deux se termine par un crash, dit Francis Rocard du Centre National d'Études Spatiales.
Ça passe ou ça casse, comme on dit. Tout se joue en 7 minutes, tout est automatique. Vous savez, vous arrivez à 20 000 km/h et il faut se poser à 1 ou 2 km/h, donc il faut réduire la vitesse coûte que coûte.
Et pour la première fois sur Mars, la NASA va aussi tenter de faire voler un hélicoptère. C'est difficile parce que l'air sur Mars est extrêmement léger. Il fallait donc construire l'hélicoptère le plus léger possible pour qu'il puisse se soulever. Il ne pèse finalement qu'un kilo 8. Les Américains veulent tenter de montrer qu'il est possible de voler sur Mars.
Lors d'Autriche.
Bonjour Philippe Anarejos.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Cette mission, on l'a compris, est exceptionnelle à plus d'un titre. Il va falloir de la patience pour connaître les résultats scientifiques parce que les échantillons ne seront récupérés sur Terre que dans 10 ans. Pourquoi va-t-il falloir attendre aussi longtemps ?
Alors, il va falloir attendre longtemps parce que ramener des morceaux de Mars, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça que c'est divisé en plusieurs missions. Alors, je vous rassure quand même, il va falloir attendre moins longtemps que ça pour avoir de nombreux résultats scientifiques de Persévérance. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des explorations et des analyses qui seront faites et qui seront transmises sur Terre entre-temps. Mais ensuite, le rover va prendre quelques échantillons que les scientifiques auront choisis sur Mars pour leur intérêt. Il les mettra dans des espèces de petites boîtes de conserve et il les disposera à des endroits bien identifiés en vue d'être récupérés plus tard par un autre rover qui lui servira simplement de camion en quelque sorte. Et il prendra les échantillons qui sont au sol, il les mettra dans sa benne en quelque sorte et puis il les mettra aussi dans une sonde qui sera posée à côté de lui et qui repartira de Mars, qui redécollera, ce sera la première fois qu'on redécolle de Mars pour revenir sur Terre. Tout ça c'est extrêmement compliqué, je vous l'ai décrit en quelques secondes, mais en fait ce sont des manœuvres très compliquées, c'est pour ça que on a profité de Persévérance pour aller au moins sélectionner de manière scientifique les échantillons, les stocker en attendant qu'ils soient venus, qu'on vienne les chercher un peu plus tard.
Voilà, ça sera une deuxième mission hein, dans un deuxième temps, dans 10 ans. Alors on recherche des traces de vie, Philippe Hénarejos, mais sous quelle forme ?
Ah, ce qu'on cherche, ce sont des formes quand même. On va pas imaginer trouver des fossiles de coquillages, par exemple. Ça, c'est trop évolué. On imagine qu'il y a un peu plus de 3,5 milliards d'années, les conditions étaient favorables à l'apparition de la vie sur Mars. En fait, on fait même plus que l'imaginer. On le sait grâce au rover précédent qui s'appelle Curiosity et qui, lui, a découvert ces indices d'une habitabilité de Mars. Maintenant, être habitable, ça ne veut pas dire que ça a été habité. Donc, maintenant, le but, ça va être de récupérer des roches, de pouvoir les stocker et les ramener sur Terre parce que même une analyse in situ, sur place, ne serait pas assez pointu pour déterminer si, par exemple, il y a eu des microbes, des bactéries, en fait, des micro-organismes, c'est de cet ordre-là, c'est les choses qu'on cherche sur Mars. Donc c'est pour ça qu'il faut les ramener sur Terre pour les examiner dans un laboratoire. Et même dans ce cas-là, ce sera compliqué parce que vous savez, même quand on cherche les premières traces de vie sur Terre, où on sait pourtant que c'est rempli de vie, les analyses sont jamais faciles à faire. Mais en tout cas, on cherche quelque chose de très petit.
C'est une longue histoire qui commence. Merci Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Et on pourra vivre en direct l'atterrissage de Persévérance sur la planète Mars avec vos équipes et les meilleurs spécialistes sur YouTube et Twitch dès 20h30. De son côté, Emmanuel Macron sera au siège parisien du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et il va en profiter pour discuter par visioconférence avec Thomas Pesquet, qui est en ce moment aux États-Unis pour préparer son vol vers la Station Spatiale Internationale.
Il est 7h07 sur Europe 1, c'est l'autre grand titre ce matin. Georges Tron vient de passer passer sa première nuit en prison. Hier soir, l'ex-secrétaire d'État a été condamné en appel à 3 ans ferme.
Oui, pour viol et agression sexuelle en réunion sur une ex-collaboratrice de la mairie de Draveil. Il écope aussi de 6 ans d'inéligibilité avec inscription au fichier des délinquants sexuels. Vous assistiez à l'audience pour Europe 1. Marion Dubreuil, Georges Tron est resté impassible.
Oui, Georges Tron, en costume sombre, est resté stoïque à l'énoncé du verdict. Coupable de viol en réunion sur Virginie Etel, acquitté pour les faits dénoncés par Eva Loubrieux, qui avait reconnu une relation consentie au départ avec le maire de Draveil et qui a trop varié d'après la cour dans ses déclarations. La plaignante a quitté précipitamment la salle d'audience en larmes. 11 heures de délibéré, c'est le temps qu'il a fallu aux jurés pour se mettre d'accord et condamner Georges Tron. La cour d'assises a finalement retenu la surprise et la contrainte morale pour caractériser les viols et les agressions sexuelles subies par Virginie Etel. Une relation asymétrique entre le maire de Draveil et son employé, la reconnaissance de cette notion d'emprise qui a été au cœur du procès, d'après maître Loïc Guérin.
Le viol ne se résume pas à un inconnu qui violemment saute sur une jeune femme dans un coin de parking. La contrainte peut également être exercée par cette emprise d'un supérieur hiérarchique, d'un puissant, sur une petite à qui on demande des faveurs sexuelles qu'elle n'aurait pas autrement accordé.
Un verdict qui fera date, peut-être le point final d'une procédure qui dure depuis 10 ans, marquée par des décisions contradictoires, un acquittement en première instance et cette condamnation en appel. Georges Tron a désormais 5 jours pour se pourvoir en cassation.
Marion Dubreuil.
Et dans le journal de 8h, vous entendrez en exclusivité la toute première réaction de la victime. Virginie Etel a choisi Europe 1 pour se confier après le verdict. Écoutez un extrait.
Ça a été un soulagement parce que c'est ce que je demande depuis 10 ans, c'est d'être entendue. Je me suis effondrée parce que c'est humain et du coup, j'ai du mal encore à y croire.
Témoignage recueilli par Guillaume Bia et rendez-vous donc à 8h pour l'écouter en intégralité. Jean-Claude Gaudin a passé plus de 8h en garde à vue hier. L'ancien maire de Marseille est soupçonné de détournement de fonds publics pour avoir employé plusieurs proches qui avaient largement dépassé l'âge de la retraite. Une chargée de relations publiques de 77 ans par exemple.
Dans un instant sur Europe 1, on ouvre le dossier de la culture en temps de Covid. Les grands festivals pourront-ils se tenir cet été? Mais alors que les chiffres sont plutôt encourageants, une ville inquiète tout particulièrement, c'est Dunkerque.
Oui, une campagne de dépistage exceptionnelle est d'ailleurs organisée aujourd'hui et demain. Il faut dire que la moitié des patients qui entrent à l'hôpital de la ville sont positifs aux variants anglais. Les soignants sont débordés. Écoutez le reportage de Maximilien Charlier.
C'est très compliqué. Là, on est clairement plus sur une vague. On est sur une marée. Et la digue que nous sommes, nous soignants, là, subit des pressions énormes.
On sent l'inquiétude de Christophe Couturier. C'est le responsable des urgences de Dunkerque.
On est au bout de ce qu'on peut proposer. Il faut que les Dunkerquois et l'ensemble des personnes du territoire aient un comportement exemplaire pour nous aider. Sinon, la plupart d'entre eux va finir ici.
Car l'hôpital est saturé. Plus de place en réanimation. La solution, évacuer les malades. Pas le choix. Justine Lebig, directeur général par intérim du centre hospitalier.
On a transféré à peu près 45 patients vers des services de réanimation depuis le 1er février, ce qui représente en 15 jours l'équivalent de 3 mois de transfert en temps plus habituel.
Du jamais vu comparé à la première et la deuxième vague, avec des malades plus jeunes, beaucoup de 45-60 ans, des clusters familiaux. Cette tension hospitalière coïncide avec la période de carnaval. Et même si les festivités ont été annulées, le patron du SAMU dans le Nord en appelle à la prudence. La distanciation, les mesures barrières, éviter surtout les rassemblements. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et parallèlement à la campagne de dépistage, 2400 doses de vaccins Moderna supplémentaires ont été attribuées à la ville de Dunkerque.
C'est donc une journée clé pour les directeurs des grands festivals de l'été. Ils vont s'entretenir en visioconférence avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et elle leur dira si elle donne son feu vert à la tenue des festivals et surtout dans quelles conditions.
Un dossier qu'on ouvre avec vous, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour.
Alors on va voir ce qu'il en est des théâtres, des musées, des cinémas, mais d'abord donc les concerts et les festivals. Vous avez des informations sur ce que devrait annoncer Roselyne Bachelot cet après-midi?
Alors on s'oriente vers la possibilité pour les gros festivals de l'été, type vous savez Rockéenne, Francofolie, Vieille Charrue ou Rock en Seine, de se tenir mais avec plusieurs conditions. Première d'entre elles, tout le monde assis, pas de grands concerts debout avec des festivaliers qui dansent entassés les uns sur les autres. Roselyne Bachelot veut un public sur des chaises avec des jauges réduites. L'idée, bien sûr, c'est de maintenir à tout prix la distanciation sociale. Deuxième mesure, évidemment toujours en fonction de la situation sanitaire, le masque pourrait être obligatoire, y compris en extérieur. Mais on ne sait pas encore si un test antigénique sera demandé aux spectateurs avant chaque concert et si les bars, vous savez, les buvettes de festivals pourront ouvrir. La question que tout le monde se pose, c'est un festival peut-il se tenir avec autant de contraintes? Oui, c'est vital pour Jérôme Tréorel, le patron des Vieilles Charrues, plus grand festival de France.
L'objectif, c'est qu'on ait rapidement les réponses afin qu'on ne soit pas trop tard pour réadapter ou réorganiser un nouvel événement. Parce que passer de 70 000 à quelques milliers de personnes, ça va nous demander pas mal de travail, de réflexion et d'adaptation. Et ce sera, je pense, aussi un signe positif dans la reprise et de lutte face à cette pandémie.
Voilà pour les gros festivals de l'été. En ce qui concerne les concerts en salle, le ministère attend les résultats des concerts tests de mi-mars pour se prononcer.
Et on reparlera de ces concerts tests tout à l'heure à 7h40 avec le docteur Vincent Estornel, qui est médecin urgentiste et qui est chargé justement d'organiser deux concerts tests au Dôme de Marseille. Mathieu Charrier, parlons un mot quand même des théâtres et des cinémas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils puissent rouvrir comme ça du jour au lendemain ?
Alors, pour les théâtres, c'est relativement simple. Les employés sont au chômage technique. La plupart des troupes ont continué de répéter. La Scala à Paris, par exemple, a 4 pièces prêtes, dont celle d'Alexis Michalik, qui peuvent donc être programmées quasi du jour au lendemain. Encore faut-il, et c'est un problème, vendre des billets. C'est sans doute ce qui est le plus long et qui peut prendre quelques semaines. Donc, eux aussi demandent à être prévenus suffisamment en amont. Même scénario pour les musées. Avec jauge et protocole sanitaire, ils peuvent rouvrir relativement rapidement et facilement.
Et d'ailleurs, le maire de Bordeaux se porte candidat pour tester ce protocole. Pour les cinémas, Mathieu ?
Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que oui, les salles peuvent rouvrir en quelques jours, mais le problème, ce sont les films. Il y en a des centaines de prêts à être projetés, et il n'y aura clairement pas assez de place pour tout le monde. Écoutez Jean Labadie, qui dirige le Pacte, c'est l'une des plus grosses sociétés indépendantes de distribution de films en France.
Aujourd'hui, on a en gros une vingtaine de films de retard.
Et comment on va faire ?
Je n'ai pas la solution. Ça dépend si les salles réouvrent en mars, en avril, en mai. Il est extrêmement difficile de savoir comment on va sauver les films qui n'ont pas pu sortir.
Et d'autant que des mastodontes comme James Bond attendent aussi de sortir. Et eux, quand ils arriveront en salle, ils prendront un écran sur 5 ou 6. Évidemment, ça laisse peu de place aux autres.
Certaines entreprises réfléchissent maintenant à de nouveaux outils pour accompagner cette reprise de la culture.
Oui, au Mans, par exemple, l'Institut technologique européen des métiers de la musique développe un outil basé sur l'intelligence artificielle pour évaluer en temps réel les risques de contamination au coronavirus dans un lieu culturel, en prenant en compte, par exemple, des critères de jauge, de distanciation, en utilisant aussi éventuellement des UV pour détecter d'éventuelles traces de virus. À la Philharmonie de Paris aussi, un nouveau système de ventilation est en cours de développement. Écoutez le reportage sur place de Caroline Baudry.
Ils ont modélisé la circulation de l'air dans la salle.
Une salle à l'architecture complexe, 5 niveaux asymétriques et 2400 sièges vides depuis des mois. Perché sur l'un des balcons dorés, le secrétaire général de la Philharmonie, Hugues de Saint-Simon, raconte sous chaque fauteuil la solution pour limiter la diffusion du virus.
Vous voyez, il y a des petites grilles là. Chaque siège a sa propre ventilation. Alors on a été surpris. Ils nous ont recommandé de diminuer de moitié le soufflage de l'air. Ici, comme le volume déjà est très important, il faut plutôt limiter le brassage de l'air.
Selon cette modélisation, l'air s'écoule en cascade jusqu'au parterre, puis s'évacue vers les plafonds, jamais face aux spectateurs, idem pour les artistes.
Puisqu'on a baissé le rythme de la climatisation, il descend en douceur dans le dos des musiciens. Ça nous a montré que aussi pour les musiciens, le risque était extrêmement limité. Ils sont extrêmement impatients de pouvoir reprendre des concerts avec public.
Des arguments présentés à la ministre de la Culture fin janvier, d'autres études ici sont en cours, comme sur la transmission du Covid-19 parmi les cœur.
Voilà, les initiatives comme ça se multiplient pour redonner vie au monde de la culture à l'arrêt total maintenant depuis bientôt 4 mois.
Merci Mathieu Charrier, redonner vie au monde de la culture. Vous nous dites donc que Roselyne Bachelot devrait accepter la tenue des grands festivals de l'été, mais il faudra rester assis et respecter les gestes barrières. Un mot de sport, Naomi Osaka est qualifiée pour la finale de l'Open de tennis d'Australie. La japonaise numéro 3 mondiale a sorti Serena Williams. Et puis en foot hier soir, Marseille a enfin renoué avec la victoire face à Nice 3-2 et remonte à la 6e place du classement de Ligue 1.
Hélène Zelani pour le journal, il est 7h16.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Et Daniel Fortin m'a rejoint pour l'éclairage éco. Bonjour Daniel.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
De quoi vous nous parlez ce matin ?
Eh bien je vais vous parler d'un grand projet européen qui fait l'objet d'une bataille homérique entre industriels.
Daniel Fortin du journal Les Échos à suivre et Vincent Hervouette pour son regard international. Bon réveil, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
7h17 sur Europe 1.
L'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Avec vous, Daniel Fortin, on s'arrête ce matin sur un dossier à 80 milliards d'euros. Le projet de construire un futur avion de chasse européen entre donc dans sa dernière ligne droite. Réunion importante hier à Paris entre les industriels. Sauf que pour l'instant, on a du mal à se mettre d'accord.
Oui, étaient présents à cette réunion Dassault, Airbus, Safran, le groupe allemand MTU, plusieurs hauts fonctionnaires de tous les pays concernés. Il faut dire que le sujet est absolument majeur, puisqu'il s'agit de construire le futur avion de chasse qui remplacera les Rafales et les Eurofighter en 2040. C'est crucial si l'on veut bâtir un jour une vraie défense européenne. C'est vital aussi, car le coût de ce genre de programme est tel qu'il épuise les budgets nationaux. On l'a vu avec l'histoire tumultueuse du Rafale. Donc on a intérêt à s'entendre, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais quand il s'agit de dire qui fera quoi dans ce nouvel avion, eh bien là c'est une toute autre histoire.
Ouais, qu'est-ce qui bloque exactement ?
Alors plusieurs choses. D'abord, la répartition des tâches entre les industriels des différents pays. Ça conditionne en effet les futures usines et donc les futurs emplois. Les Espagnols réclament par exemple un tiers de la fabrication des moteurs du futur avion. Des moteurs que le français Safran et l'allemand MTU avaient l'intention initiale de se partager. Autre point de blocage, la propriété intellectuelle. Pour une entreprise comme Dassault, par exemple, dont l'existence même est conditionnée à ses brevets, ce n'est pas rien de les mettre du jour au lendemain dans un pot commun. Et enfin, dernier point de friction, le leadership sur les techniques, qui sera le maître d'œuvre sur la furtivité, sur les commandes de vol, sur les cockpits. Là aussi, il faut régler ces questions de souveraineté avant de lancer le projet.
Oui, donc ça n'est pas simple. Ça veut dire que le projet peut encore capoter ?
Alors, on devrait en savoir plus aujourd'hui, car une rencontre est prévue entre Florence Parly, la ministre de la Défense, et son homologue allemande. On va faire le point sur les négociations. En tout cas, si un échec est constaté, ça ouvrirait une crise politique très grave. On n'a en effet jamais été aussi près d'une Europe commune de la défense. En dehors de l'avion de chasse, il y a aussi d'autres projets dans les tuyaux, comme un futur char européen. Mais tous dépendent de ce qui se décidera cette semaine. C'est une sorte de quitte ou double qui se joue sur un sujet vraiment structurant pour l'Europe.
Ouais, Daniel Fortin, Vincent Hervouet vous écoutent attentivement. L'Europe de la défense, Vincent, ça vous fait réagir?
Ben, l'avion de combat européen volera, c'est sûr. Hein. Il volera les contribuables français, comme la 400M, l'avion de transport militaire, qui a coûté 30 milliards et quelques, le double de ce qui était prévu.
Voilà. En attendant, il faut se mettre d'accord sur la répartition des tâches, et on l'a compris, justement, c'est pas facile. 7h19.
C'était l'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Vincent Hervouet, on en vient à votre sujet, votre regard international ce matin. Vous avez peut-être vu ce film Hôtel Rwanda, sorti en 2005. L'histoire vraie de Paul Rusesa Bagina, le Hutu qui sauva des milliers de vies Tutsi pendant le génocide. Eh bien, ce héros, Vincent, se retrouve devant la justice aujourd'hui, jugé pour terrorisme.
Oui, tout le monde connaît la légende. L'ancien directeur d'hôtel a raconté comment il négociait avec les tueurs pour protéger les Tutsis. Il en aurait sauvé 1268. Et Hollywood, donc, en a fait un film. L'Afrique avait sa liste de Schindler. Hier, il a réapparu dans le box en pyjama rose, comme les génocidaires, avec 13 chefs d'inculpation. Chacun d'entre eux lui assure la perpétuité. Pourquoi ? Bien parce que Paul Rusesa Bagina est devenu un opposant en exil. Au lieu de polir le marbre de sa statue, il a créé un parti en exil avec une branche armée. Il faut croire qu'il a pris au sérieux le résistant qu'Hollywood a idéalisé. Il a voulu être à la hauteur et il a été piégé comme un débutant.
Oui, il croyait être invité au Burundi. En fait, il a été convoyé au Rwanda.
Oui, c'est l'histoire que raconte le faux frère qui l'a trahi, un pasteur qui a fondé sa petite église dont il est le pape et surtout le PDG. Aux ordres des services secrets rwandais, il a attiré Paul Rusesa Bagina et il serait allé le chercher en jet. Et au lieu de le conduire au Burundi, il l'a livré à Kigali. Alors l'intérêt de cette version, la ruse, c'est d'enterrer les plaintes pour enlèvement instruites en ce moment aux États-Unis et en Belgique. Le révérend est un Judas. Paul Rusesa Bagina ment lui aussi. Hier, il a plaidé « Je suis belge, je ne suis pas rwandais », mais il niait l'évidence en Kinyarwanda, la langue locale. Le Rwanda, c'est le pays du grand mensonge.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Ben, on croit que c'est un pays moderne, avec Internet dans les bus, des hôpitaux à la hauteur, le premier d'Afrique de l'Est à vacciner contre le Covid. En fait, c'est un régime policier sauvage qui tient par la délation, la terreur, la torture dans des prisons secrètes. On fait grand cas d'Alexis Navalny ou de Jamal Khashoggi. Mais au Rwanda, on ne compte plus les opposants disparus, les assassinés, les suicidés improbables, comme Kizito Mihigo, le chanteur de gospel persécuté et mort au commissariat il y a un an, jour pour jour. Comme la Chine, comme la Turquie, comme l'Iran, le Rwanda harcèle ses opposants à l'étranger, les enlève, les élimine. C'est répression sans frontières. Mais contrairement aux autres, ça ne nuit pas à sa réputation. Cette année, il accueillera le sommet du Commonwealth et aussi Emmanuel Macron.
Le regard international de Vincent Hervouet sur Europe 1. Il est 7h22. Et le roi Nadal est tombé à Melbourne, défait en quart de finale de l'Open d'Australie.
Un bon set de tennis, non, al menos.
Et on entend Rafael Nadal se plaindre de crampes, obligé d'interrompre sa conférence de presse juste après ce match éprouvant où la situation s'est complètement retournée en faveur du grec Tsitsipas. L'édito sport de Virginie Fulpin à suivre et Stéphane Bern nous rejoint. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h24, Virginie Fulpin, votre édito sport ce matin sur cet incroyable retournement de situation. Hein, hier donc sur le court à Melbourne, Rafael Nadal éliminé en quart de finale de l'Open d'Australie au bout du suspense parce qu'il avait remporté les deux premiers sets, mais le grec Tsitsipas l'a fait chuter au cinquième. Mais ce suspense, c'est toute la beauté du tennis.
Bah, c'est un sport qui peut vous rendre fou, le tennis. Hein. Un sport où une balle, un coup de raquette, un seul peut changer votre destin. C'est vertigineux quand même quand on y pense. Rafael Nadal survolait son quart de finale contre Stefanos Tsitsipas, 2-7-0, vous l'avez dit. L'Espagnol en démolisseur appliqué et maître du jeu face à un grec impuissant, promis au triste sort de victime trop tendre. Hein. S'il y avait eu du public dans les tribunes de Melbourne hier, il y a peut-être certains spectateurs qui auraient peut-être quitté le stade face à cette partie courue d'avance. Mais c'est là que la magie où la cruauté du tennis opère, hein, selon le côté du court où vous vous trouvez. Jeu décisif dans le troisième set, Rafael Nadal remporte le premier point, mais sur le deuxième, il rate complètement un smash facile. Ça aurait pu être qu'une péripétie, hein, mais en fait c'est là que tout a basculé sur un point. Un raté qui insinue le doute dans le cerveau de Nadal, un point inespéré qui laisse entrevoir la possibilité d'un espoir chez Tsitsipas. Vous voyez les précautions oratoires que je prends, et pourtant ça change tout. Une balle mal frappée par Nadal et Stefanos Tsitsipas a ouvert les yeux, a retrouvé ses jambes, a avancé sur le court, à frapper plus fort, plus juste, comme s'il se mettait à grandir sur le terrain pendant que Rafael Nadal rapetissait inexorablement. Pour moi, ce genre de moment fait la grandeur du tennis, quasiment la métaphore d'une vie où le hasard d'une rencontre ou d'une action vous fait basculer vers autre chose.
Ouais, ça se joue dans la tête. C'est aussi une formidable pub pour les matchs en 5-7.
Bah, vous imaginez si ce quart de finale s'était joué en deux manches gagnantes, Rafael Nadal l'aurait emporté 6-3, 6-2, circulé, il n'y a rien à voir. J'ai absolument rien contre l'Espagnol, au contraire, il n'a même pas cherché d'excuses hein, après sa défaite. Non, j'ai pas mal au dos. Tsitsipas a été extraordinaire dans la deuxième partie du match et j'ai raté des balles que j'ai pas le droit de rater. C'est la vie. Ben oui, c'est la vie, c'est le tennis et c'est comme ça qu'on a envie de le voir. Un match n'est jamais fini avant le dernier point. Cette phrase peut paraître ridicule, hein, mais elle est tellement vraie et c'est ce qui donne la saveur à ce sport où la psychologie et le mental ont tant d'importance. Puis c'est aussi en voyant Nadal s'incliner après avoir remporté les deux premiers sets aussi facilement qu'on se rend encore plus compte de la carrière monumentale qu'il accomplit. Hein. C'est rarissime qu'un grain de sable fasse dérailler. Rarissime, mais possible. C'est ça le tennis, le champ des possibles. Alors à tous ceux qui réfléchissent aux réformes à accomplir dans ce sport, ne touchez pas aux matchs en 5-7.
Mais non, on adore les matchs en 5-7. Enfin, les regarder, pas forcément les jouer. Hein. On est d'accord, je n'y file pas. Restez avec nous parce que Stéphane Bern nous a rejoint pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Quand on a un amoureux, qu'on a un petit copain, un fiancé, il y avait une expression qui maintenant est passée de mode, on disait « avoir un Jules ».
Alors un Jules, ça désignait un amant, un mari. Un proxénète aussi dans le langage titi parisien de l'après-guerre. On disait ça parce que le prénom Jules était à la mode.
Bon, c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, les Jules courent les rues. Les 20 premières années du 20e siècle, on compte encore beaucoup de Jules. Et alors que le prénom est totalement tombé en désuétude dans les années 80, on assiste d'ailleurs à un retour en grâce ces dernières années. J'ai mené l'enquête, rien à voir avec ce célèbre chanteur Jules que vous connaissez peut-être, Virginie.
Je connais le signe vaguement, enfin non, j'arrive même pas à faire avec
les
mains.
C'est déjà pas mal.
En fait, avoir un Jules est une expression beaucoup plus ancienne et imaginez-vous, elle vient d'une femme. Marie-Antoinette d'Autriche, l'épouse du roi Louis XVI, est encore aujourd'hui l'une des plus célèbres reines de France. Fascinante, emblématique de l'histoire de Versailles, l'archiduchesse d'Autriche a cristallisé une haine aussi démesurée qu'injuste. Surnommée Madame Déficit, l'Autrichienne, les rumeurs les plus folles sont proférées à son encontre et parmi ces rumeurs, une liaison homosexuelle qu'elle aurait eue avec sa confidente Madame de Polignac. Cette dernière a un mari, Jules de Polignac. Et quant à la cour, on évoque ce sulfureux potin Pour plus de discrétion, on parle du Jules de la Reine. Les historiens ont depuis reconnu l'improbable véracité de cette liaison. Juste un beau roman d'amitié témoin le passage sur la tombe de Madame de Polignac qui est morte de maladie 50 jours après la fin tragique de Marie-Antoinette y est inscrit « morte de douleur ».
Eh bien, on apprend des choses et on en apprendra d'autres tout à l'heure à partir de 16h avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit Suzanne Noël, médecin pendant la Première Guerre et pionnière de la chirurgie réparatrice. L'icône Marilyn Monroe et l'américaine Jocelyn Wildenstein qui a hérité de plusieurs milliards de dollars qu'elle a dilapidés notamment en lifting. Leur point commun, vous l'avez compris, elles ont fait de la chirurgie esthétique.
Historiquement vôtre. Avec vous Stéphane Bern et Mathieu Noël, à tout à l'heure.
Ça sera hystériquement vôtre tout à l'heure.
Tout à l'heure. 7h29, Laurent Cabrol, oui. La tendance est donc à la douceur, ça va durer ?
Oui, ça va durer. Alors, la douceur, c'est-à-dire pour la saison, bien sûr, sont les températures de 17 à 20 degrés, grosso modo. Cela va durer non seulement jusqu'à dimanche et samedi-dimanche, qui sont les journées les plus agréables et les plus chaudes de la semaine. Mais la semaine prochaine aussi sera une semaine de douceur. Avec à la clé, ça n'est pas forcément un ciel limpide. Il y aura chaque fois un petit passage pluvieux, chaque jour pratiquement, mais un petit passage pluvieux très court, pas pour tout le monde, et généralement sur la moitié nord. Et donc, il ne mettra jamais en cause l'impression de beau temps que nous aurons et que nous avons et que nous aurons encore. Alors aujourd'hui, c'est une petite parenthèse nuageuse et pluvieuse, parce que là, la perturbation est plus solide, elle est plus costaude. Nous aurons donc sur pratiquement toute la France un petit passage pluvieux. Déjà, le premier est arrivé, puisqu'il est scindé en deux. Le premier est arrivé, le second arrive, de sorte que pratiquement, donc je disais, tout le monde sera touché, sauf le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, le Mâconnais, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, qui ne seront concernés un petit peu plus tard dans la journée ou même dans la soirée et la nuit prochaine. Mais sur Paris, par exemple, nous aurons des averses ce matin et ensuite des pluies un peu plus présentes cet après-midi, un peu plus fortes. Mais dans l'ensemble, je le disais, ce sont des averses ou des pluies éphémères et ça ne durera pas. Surtout demain, le beau temps va se réinstaller sur une grande partie de la France. Température maximale aujourd'hui, 13 à 20 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
7h30.
Plus de 7 milliards d'euros de pertes. Air France KLM vient de publier ses chiffres pour l'année 2020. Pire résultat de l'histoire pour la compagnie aérienne qui accuse le coup après un an de pandémie. Décryptage au début de ce journal. On parlera aussi du casse-tête des autorités chargées d'enquêter sur les cyberattaques. Elles se multiplient en France ces derniers temps. Emmanuel Macron présentera son plan de lutte aujourd'hui. Transformer les couches pour bébés en compost, une alternative plus respectueuse de la nature. L'expérimentation est en cours. Et puis le triplé en ligne de mire pour Tessa Worley. La Française tentera tout à l'heure d'ajouter une nouvelle médaille d'or à son palmarès au Mondiaux de ski en Italie.
Juste après le journal, le moment de folie de Bertrand Chameroy, c'est La Touche Âme. Le tête-à-tête Europe Matin avec le médecin chargé de remplir une salle de concert. Concert test, expérience scientifique à Marseille le mois prochain. Le docteur Vincent Estornel nous explique tout. Et je salue ce matin Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Sébastien.
Votre édito politique.
Eh bien l'Élysée voulait instaurer le vote par anticipation pour la présidentielle, ce qui est une grande innovation, mais la manœuvre a raté, on va vous le raconter.
À tout à l'heure, 7h50, vous êtes sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sont donc des résultats catastrophiques que vient de publier Air France KLM pour l'année 2020. 7,1 milliards d'euros de pertes, une baisse historique, c'était attendu, puisque l'aérien fait partie des secteurs les plus touchés par la crise, moins 60% dans le monde l'an dernier. Et le problème, c'est que l'horizon ne va pas se dégager tout de suite.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Pour Air France, l'enjeu sera de tenir financièrement. Et cela devra passer par une recapitalisation ?
Oui, parce que la situation économique de la compagnie ne s'améliore pas. Chiffre d'affaires qui s'est effondré de 59%. Air France brûle encore chaque jour 10 millions d'euros entre les avions cloués au sol et le personnel en activité partielle. Une recapitalisation apparaît donc inévitable. Bercy suit le dossier attentivement. Il y a eu le prêt garanti par l'État de 7 milliards d'euros accordé l'an dernier. Désormais, une montée au capital est une option crédible, sans aller jusqu'à une nationalisation. L'État en possède 14% et cette participation pourrait doubler. Voilà de quoi rassurer les salariés, même si Laurent Le Gall, délégué CFTC personnel navigant, se méfie des conséquences d'un éventuel sauvetage.
Bien évidemment, si on était sauvé, il y aurait peut-être certainement des contreparties, et c'est plus les contreparties de cette recapitalisation, qu'elle soit nationale ou par des actionnaires, qui seraient inquiétantes en fait.
Mais cette recapitalisation ne sera pas simple. Côté KLM, les Pays-Bas souhaitent bien injecter de l'argent, mais à leur compagnie nationale et pas au groupe Air France KLM.
Alors, outre Air France Aurélien, c'est tout le secteur qui subit la crise de plein fouet. ADP et Airbus viennent eux aussi de publier leurs résultats.
Oui, et c'est inédit de voir les géants français du secteur aérien tous publier leurs résultats en même temps. Et c'est clairement parce qu'il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles à annoncer. Pour Airbus, la perte dépasse le milliard d'euros avec des livraisons d'avions en baisse d'un tiers. Ce devrait être pareil en 2021. Et puis, trafic en chute libre dans les aéroports parisiens, moins 69%. En 2020, annonce le groupe ADP qui a réussi à limiter la casse en fermant des terminaux à Orly et Roissy et grâce également à un accord de rupture conventionnelle collective et une baisse globale des salaires de 8%.
Décryptage signé Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
Emmanuel Macron dévoilera tout à l'heure sa stratégie de lutte contre les cyberattaques alors que de nombreuses entreprises françaises ont été visées ces derniers temps.
On vous parlait hier dans ce journal de ce coup de filet chez des hackers ukrainiens, résultat d'une action conjointe des polices françaises et ukrainiennes. Le gouvernement voudrait notamment doubler le nombre d'emplois du secteur cyber pour pouvoir développer des solutions contre ces attaques car souvent, Gladys Laffitte, les enquêtes sont complexes à mener.
Oui, par exemple, on ne connaît pas l'origine des attaques sur les deux hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône, seulement qu'il s'agit du même rançongiciel et qu'une somme a été exigée pour débloquer les données volées. Cela se chiffre en millions d'euros, demandés en bitcoin, la monnaie cryptée, une somme non payée. Alors il faut savoir que ni le système de santé français ni même la France ne sont spécifiquement visés, mais les hackers profitent de la pandémie. Ils sont juste opportunistes, explique Catherine Chambon, sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire.
Les hackers sont, comme beaucoup de criminels, uniquement motivés par avoir de l'argent. La vie humaine compte assez peu, finalement. Ce sont des groupes cybercriminels particulièrement structurés qui opèrent depuis des États étrangers, de plusieurs pays, souvent.
Et c'est aussi cela qui complique les enquêtes, car la coopération internationale, eh bien, ça prend du temps. Des enquêtes de plus en plus nombreuses. En 2020, le parquet de Paris, qui les centralise, en a ouvert 436 contre 148 en 2019. Et rien que pour ce début d'année, il y en a déjà 40 nouvelles, tout cela pour seulement 3 magistrats spécialisés. Ultime complexité pour les enquêteurs, les victimes qui ne déposent pas plainte et qui payent les rançons demandées.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. 3 ans de prison ferme pour Georges Tron, le maire de Draveil dans l'Essonne, pour viol et agression sexuelle sur l'une de ses anciennes collaboratrices. Son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel, écope elle de 2 ans de prison avec sursis.
Il est 7h35 sur Europe 1. Que faire des montagnes de déchets que sont les couches pour bébés? Elles ont un impact désastreux sur l'environnement.
Heureusement, des solutions existent. Une expérimentation très prometteuse de compostage vient d'être lancée en France. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Alors, on va entendre votre reportage dans un instant, mais d'abord quelques chiffres. Combien de couches est-ce qu'on jette chaque année ?
C'est gigantesque. Chaque bébé, avant d'être propre, utilise entre 4 et 5 000 couches. Donc, on en jette 3,5 milliards par an en France. Ce sont essentiellement des couches produites à base de plastique, donc issues de pétrole, et elles vont dans la poubelle normale.
Et qu'est-ce qu'elles deviennent ?
Eh bien, il y a deux solutions. Comme tous les déchets qu'on ne peut pas recycler, soit on les incinère, soit on les enfouit dans le sol, dans des décharges. Les brûler, ça émet des gaz à effet de serre. Et quand on les enfouit, eh bien, une couche bébé va mettre 500 ans à se dégrader.
Oui, on comprend bien qu'il faut trouver rapidement une solution. Alors pourquoi ne pas transformer ces couches en compost ? C'est ce que testent en ce moment plusieurs crèches autour de Paris, notamment celle de Pantin, où vous vous êtes rendue, Virginie.
Dans cette crèche, les bébés portent des prototypes de couches compostables, c'est-à-dire qu'elles sont faites en cellulose et amidon de maïs, comme celle que Carmen est en train de retirer à un petit garçon.
Elle ressemble exactement à une couche normale. On sent bien que c'est du coton à l'intérieur. Au moment où on change la couche, on doit juste tirer les scratchs comme ça.
Il faut retirer 2 petits scotchs en plastique, c'est le seul élément non recyclable, avant de jeter la couche dans une poubelle spéciale qui part au compostage à 1 km de là, en voiture électrique. Alors on y va, on arrive sur un terrain vague, il y a une grosse machine, un composteur industriel. Les couches broyées deviennent du compost grossier. En 2 semaines, ça ressemble déjà à de la terre.
On voit que c'est noir, ça sent plutôt bon. Si on s'approche, ça sent la forêt.
Maïwenn Mollet, responsable du projet Les couches fertile.
Vraiment, l'idée ici à Pantin, c'est de montrer qu'à petite échelle et petit volume, c'est possible avec la couche compostable, l'utilisation en crèche, la collecte par nous, la transformation en compost. Et on travaille sur l'étape suivante pour 2022 de pouvoir traiter les couches par million.
Alors pour l'instant, les couches qui sont utilisées sont des prototypes fabriqués par l'une des usines d'Intermarché, pas encore en vente au public, mais ça pourrait l'être à grande échelle très bientôt. Le défi maintenant, c'est de les rendre rapidement compétitives en prix.
Reportage et dossier signé Virginie Salmen du service social.
d'Europe 1.
À l'étranger, les États-Unis continuent de subir la vague de froid polaire. Des millions de personnes sont toujours privées d'électricité.
À Houston, au Texas, une méga église accueille depuis dimanche des habitants sinistrés. 400 personnes y ont dormi la nuit dernière. Parmi eux, David Hernandez, qui témoigne. J'ai essayé de dormir dans ma voiture, mais tous les liquides ont gelé. C'était comme dormir dans une glacière, dit-il. Il était donc obligé de venir ici car il n'avait pas le choix. Et l'une des conséquences de cette vague de froid, c'est l'impact sur les livraisons de vaccins aux États-Unis. Au championnat du monde de ski alpin, c'est la journée du slalom géant féminin. Principale chance française, Tessa Worley, la double championne du monde, a récolté mercredi une médaille de bronze en parallèle. Elle visera un nouveau podium sur sa course fétiche. L'équipe de France féminine peut compter sur sa championne d'exception, Corinne Boulou.
10 ans que l'équipe de France peut compter sur Tessa Worley. Celle que ses supporters surnomment la puce du Grand Bornand possède un palmarès mondial XXL, riche de 5 médailles, dont 2 titres mondiaux sur sa course fétiche, le slalom géant, en 2013 et 2017. 2 opérations au genou ont marqué un coup d'arrêt dans sa carrière, et malgré cela, elle est toujours là. Après un début de saison timide, elle a retrouvé ses sensations avec 3 podiums cette saison, dont une victoire juste avant les mondiaux de Cortina. Son compagnon, le skieur Julien Liseroux, tout juste retraité, reconnaît bien là le tempérament de sa championne.
Elle a un tempérament de guerrière, vraiment. Elle aime la compétition, elle se remet en question tout le temps, elle est très curieuse, elle fait attention à tous les petits détails et finalement c'est ça les grands champions. Et ouais, moi je suis assez impressionné de sa manière de gérer tout ça. Elle est plus toute jeune sur le circuit, elle a un genou qui queen quand même fort depuis 2-3 saisons maintenant et malgré cette adversité, elle ne lâche rien.
Tessa Worley a bien lancé ses mondiaux avec une médaille presque inattendue avant-hier en parallèle. À 31 ans, elle reste la valeur sûre du ski féminin français.
Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, il est 8h20.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Notez qu'à 8h15, tout à l'heure, Sonia Mabrouk reçoit le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer. Mais d'abord, on s'arrête sur ces concerts tests destinés à mesurer les effets en termes de contamination. Expérience très scientifique en préparation à Marseille. Qui sera dans la salle? Dans quelles conditions? Le docteur Estornel travaille sur le protocole avec l'INSERM. Vous allez tout comprendre. Il sera mon invité juste après la Toucham. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Sébastien. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Réponse avec ce sondage sur l'optimisme des Français qui vient de paraître.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
7h42, votre rendez-vous. La Toucham, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bertrand, vous vous intéressez donc au moral des Français.
Oui, alors loin de moi l'idée de marcher sur les plates-bandes de Jimmy Mohamed. J'ai pas envie qu'il s'énerve. Je sais que je perds face à lui en cas de duel. Il fait du Krav Maga et moi des mots fléchés. Donc bon, je pars avec un léger handicap. Pour revenir au sujet, un sondage a donc retenu mon attention. Sondage Elab pour BFM, dont la question est... Quand pensez-vous retrouver une vie normale? Alors les Français sont-ils optimistes? Plusieurs profils se dessinent dans les résultats. Il y a ceux qui voient le verre plein à ras-bord. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. 31% répondent en 2021, cette année donc, c'est sympa. Pour 30%, ce sera en 2022. Viennent ensuite ceux qui voient le verre à moitié vide. 17% pensent retrouver une vie normale après 2022. Et puis il y a ceux qui ont bu le verre avec un Xanax, puis ont pris un marteau pour briser le verre avant d'y mettre le feu. Quand pensez-vous retrouver une vie normale? 22% répondent « jamais ». Ça va les 22%, en petite forme, hein? Qui sont ces 22%? Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux, Hervé Tranxen.
Jamais on retrouvera une vie normale. Non, mais c'est plié. Notre vie s'est passée tous les jeudis avec Castex et Véran en point presse jusqu'à la fin des temps pour nous présenter des variants de variants qui ont fusionné avec des fusions de variants mutés. Didier Raoult tous les 2 jours à la télé pour dire tout et son contraire. Des couvre-feux à 14h30, des tests PCR dans tous les orifices. Jamais on retrouvera une vie normale. Mais de toute façon, c'est quoi la vie normale? C'est trimer comme des cons et quand on a du temps libre, aller voir les Trocref et Gourmands en concert? La vie normale, ça n'existe pas. C'est antinomique, c'est un oxymore. La vie, c'est pas normal. La vie, c'est imprévisible, c'est instable. C'est une belle tartine de merde.
Un témoignage qui fait du bien. Alors, si vous aussi vous faites partie de ces 22% qui pensent ne jamais retrouver une vie normale ou que la situation actuelle angoisse, il existe un remède. Le New York Post relaie une étude selon laquelle les tubes des années 80 seraient les plus apaisants pour l'esprit et de préciser que la techno arrive en dernière position du classement. Alors, ça alors, j'en tombe de l'armoire. Mais c'est vrai, quoi de mieux que les années 80 pour s'apaiser? On se sent tout de suite mieux. Alors attention, précision, ce qui détend, c'est d'écouter la musique des années 80, pas les chanteurs des années 80. Parce que si vous écoutez Francis Lalanne ou Bébert des Forbans en ce moment, ça va vous foutre le moral en l'air. Hein. La musique des années 80, remède anti-stress et donc des DJ qui pourraient devenir les nouveaux médecins. Mon nom est Sébastien, je vous prescris 3 mg de Eurythmics, de gélules de Jean Schultes, du Jean-Pierre Madère, matin, midi, soir, mais d'abord, un petit Sylvie Vartan.
Dis-moi quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine. Ne perds pas ton temps.
Bonne journée, c'est ça.
Vous avez choisi le mélange entre Eurythmics et Sylvie Vartan.
C'est la meilleure cover qui existe.
C'est vous qui le dites. Bertrand Chameroy sur Europe 1. La touche âme, 7h44.
Europe Matin, le 7-9.
Eh ben tiens, on va continuer de parler musique sur Europe 1. C'est la dernière annulation en date.
J'espérais vraiment vous voir en Europe ce printemps. Mais malheureusement, il faut attendre encore un peu parce que la situation n'est pas encore assez sécuritaire.
Le message de Céline Dion annonçant le report de sa tournée de concert géant. Alors quand retrouverons-nous l'ambiance des salles de spectacle ? La réponse à cette question repose en partie sur le travail de mon invité ce matin. Il est médecin urgentiste et il travaille sur des concerts tests en préparation à Marseille avec un protocole scientifique bien précis. Le docteur Vincent Estornel est mon invité.
Le tête-à-tête. Bon. Sébastien Krebs.
Bonjour Vincent Estornel.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis Marseille. Vous allez donc remettre du public dans une salle de spectacle, si tout va bien, le mois prochain au Dôme à Marseille. Le groupe IAM sera sur scène. Et vous travaillez avec d'autres médecins et avec l'INSERM sur le protocole scientifique. Comment vous allez vous y prendre pour mesurer les risques de contamination ?
Bien, le but de cette étude, c'est d'évaluer le sur-risque de s'infecter à la Covid-19 quand on assiste à un spectacle avec un protocole sanitaire adapté à l'événement et au lieu recevant le public. Alors c'est un protocole, comme vous l'avez dit, qui est rédigé par l'INSERM. Les détails, donc on est en phase finale de validation, hein, parce que une étude scientifique, ça nécessite beaucoup d'accords, ouais. De validation.
D'abord, peut-être, là, combien de personnes vous mettrez, combien de spectateurs allez-vous mettre dans la salle ?
Alors, ce seront deux concerts de 1000 personnes à chaque fois.
Deux fois 1000 personnes,
ouais. Mais on est dans le cadre d'une étude scientifique. Ça veut dire que 2000 personnes vont se porter volontaires pour assister à ce concert. Comme c'est une étude randomisée, il va y avoir un tirage au sort pour comparer une population qui assiste au concert à une population de même profil qui n'assiste pas à ce concert.
D'accord.
Donc à chaque fois 1000 personnes assisteront
personnes
à ce concert
au Dôme de Marseille qui a une capacité de 8500 spectateurs. Donc c'est une salle qui sera loin d'être pleine. Dans quelles conditions ces 1000 personnes vont assister au concert ? Assis, debout, est-ce qu'il y aura une fosse ?
Alors, cette étude est ouverte à une population, une tranche d'âge de 20 à 30 ans. Hein, le but est de protéger au maximum ces volontaires. Donc on va respecter une tranche d'âge qui présente peu de risques de développer une forme grave s'ils venaient à s'infecter. Donc
une population plus jeune.
Plus jeune, le choix qui a été fait pour l'instant, c'est une population de 20 à 30 ans.
De 20 à 30 ans uniquement.
De 20 à 30 ans uniquement, sans maladie susceptible effectivement de faire développer une forme grave en cas d'infection par la Covid-19. Donc effectivement une protection de ces volontaires. Donc effectivement on sera sur une configuration dite assise avec des masques, avec le port d'un masque FFP2 obligatoire dès l'accès à la salle.
Donc des conditions qui sont quand même très particulières. Masque FFP2, donc des masques qui habituellement sont plutôt réservés aux soignants mais qui protègent plus. Des spectateurs uniquement assis. Et puis je lisais les quelques autres précautions que vous allez prendre à l'intérieur de la salle. Un canon à neige qui va diffuser des produits désinfectants. On va distribuer aussi un sac avec des boissons et de la nourriture parce que les spectateurs ne pourront pas bouger. Il n'y aura pas de buvette. On ne pourra même pas se lever pour danser ou chanter. Tout ça, ça veut dire que... Si, quand même, à sa place. Mais à sa place uniquement.
Si. On veut protéger au maximum, évidemment, les volontaires, même si on est dans le cadre d'une étude scientifique. Mais pour cette première étude scientifique, on a voulu optimiser leur sécurité. Donc, oui, ils seront affectés à une place, mais ils pourront bien sûr se lever, se trémousser, dans la limite de leur siège.
De leur siège. On est quand même assez loin des conditions réelles, normales d'un concert.
Oui, mais encore une fois, c'est une première étude, c'est une première étape. Il y aura, on l'espère, d'autres travaux réalisés justement sur la filière de l'événementiel, avec en envisageant les nouvelles thérapeutiques, la vaccination. Donc, on est sur une première étude, et pour faire cette première étude, il faut sécuriser un maximum notre public.
Vous testerez le public sera testé avant le concert?
Alors, le public sera testé trois fois, puisqu'ils seront... Alors, il va y avoir deux concerts, donc je vous ai expliqué, 2000 personnes sélectionnées, 1000 personnes tirées au sort, ces 1000 personnes vont assister au concert, et bien évidemment, les 1000 autres personnes n'assisteront pas au concert. Sur le deuxième concert, ce qu'on appelle une étude croisée, les personnes qui n'ont pas, malheureusement pas assisté à ce premier concert, assisteront à ce concert, au deuxième concert, et les 1000 premiers qui avaient eu la chance d'y assister serviront de témoins. Donc au total, les 2000 personnes assisteront au concert. Voilà.
Très bien. Et ils seront retestés ensuite, testés avant, testés
alors,
après.
Alors les tests se feront sous la forme donc les tests qu'on appelle les tests PCR la veille. Du premier concert à J6, donc 6 jours après la tenue du premier concert, et à J13 après la tenue du premier concert. Donc chaque volontaire sera testé trois fois.
Vincent Estornel, il y a une question qui interpelle, puisque vous allez les tester avant, vous allez forcément vous rendre compte qu'il y aura forcément dans ces 2000 personnes des sujets positifs. Vous allez les laisser assister au concert pour que cette expérience soit réaliste. Ça veut dire que les spectateurs qui accepteront d'être volontaires, c'est à leurs risques et périls. Ils peuvent être contaminés pendant ce concert. Il y aura des positifs.
Bien sûr. Et ça, voilà. C'est notre différence avec, par exemple, l'étude de Barcelone, qui a testé un autre modèle, qui était de tester tout le monde en amont et de ne pas accepter les personnes positives, de les remplacer. Et effectivement, ils ont fait un concert de forme asepsisée. Nous, on fait le choix, effectivement, de laisser évoluer, puisqu'on veut comparer deux populations, on veut évaluer un sur-risque. On laisse la possibilité, effectivement, aux personnes qui seront testées positives d'assister au concert, comme il y aura certainement des personnes testées positives qui n'assisteront pas au concert, et nous, le but étant de comparer ces deux populations-là. C'est pour ça qu'on sécurise au maximum notre public, avec toutes les mesures qu'on a annoncées tout à l'heure. Mais oui, ça a fait la force de cette étude, c'est que les résultats ne seront connus qu'après la tenue des deux concerts.
Une fois que tout le monde aura passé, bien sûr, les délais d'incubation. Que nous disent les autres expériences qui ont déjà été menées, hein. Il y a déjà eu des expériences à l'étranger. Qu'est-ce que vous en concluez à ce stade?
Ce que l'on sait, c'est que les modèles qui ont été testés n'ont pas révélé l'émergence de clusters dans ces événements-là. Alors, ils ont tous été testés selon des protocoles d'études différents. Ils apportent tous un élément intéressant dans la perspective de la réouverture. Et c'est pour ça que nous souhaitons... présenter tous ces résultats qui sont faits d'études, de travaux qui sont faits en France et à l'étranger lors d'un congrès qui se tiendra, on l'espère, avant la tenue des festivals cet été, sur Marseille, où l'idée est de synthétiser tous ces travaux qui sont faits en France mais à l'étranger, d'en faire une synthèse et de présenter des solutions à nos décideurs, au gouvernement, dans le but de la réouverture des salles de spectacle.
Voilà la question qui se pose notamment pour les festivals cet été. Il y a un rendez-vous dès aujourd'hui, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure entre Roselyne Bachelot et les acteurs du spectacle. Une dernière chose, Vincent Estornel, on va repréciser qu'il n'y a pas de billets en vente pour ces concerts tests.
Hein. Oui, c'est très
important. C'est vous qui recrutez les volontaires, comment ils peuvent se manifester en deux mots?
Alors, le choix qui a été fait, c'est d'aller recruter des volontaires au niveau de Aix-Marseille Université.
À l'université.
Donc, ils vont pouvoir s'inscrire sur une plateforme en remplissant évidemment tous les formulaires et toutes les acceptations quand on rentre dans une étude scientifique. Donc, oui, c'est très bien de préciser qu'il n'y a pas de billetterie, ce n'est pas un concert à but lucratif, hein, puisque tous les artistes interviennent de façon bénévole sur cette étude-là. Donc Donc il n'y a pas de billetterie. On sait qu'il y a des billetteries parallèles qui se sont, montées, ouais. Des escrocs. Oui. Donc non, il n'y a pas de billetterie. On est dans le cadre d'une étude scientifique. Donc ça se fera sur le volontariat via une plateforme que mettra en place l'INSERM.
Des volontaires entre 20 et 30 ans, on l'a compris, pour assister à ce concert. Le retour d'IAM sur scène à Marseille. Ce sera aussi un événement. Merci infiniment. Merci Vincent Estornel d'avoir
merci
été
l'invité
d'Europe 1 ce matin.
Tant pis.
Europe 1, Sébastien Krebs.
7h54, voter sur des machines par anticipation à la présidentielle, ce serait une révolution. Le gouvernement aimerait l'autoriser, mais la méthode fait débat. L'édito politique à suivre avec Catherine Ney.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 8h05.
L'édito politique de Catherine Ney avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Catherine Ney dans le 7-9 ce matin pour l'édito politique. Catherine, le Sénat examine cet après-midi un projet de loi organique portant sur les adaptations techniques de l'élection présidentielle. Mais voilà que le gouvernement a déposé mardi un amendement visant à instaurer le vote par anticipation. Ça a mis le feu aux poudres.
Mais oui, quand ils ont reçu un coup de fil du ministère de l'Intérieur, ils ont cru que c'était un canular. Ils ne voulaient pas le croire. Mais si c'est vrai, ça vient de l'Élysée. Comprenez, Jupiter. Bizarre tout de même, parce que le projet de loi a déjà été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale où le président est assuré d'avoir une majorité. Il aurait pu obtenir un vote positif, mais là, envoyé au Sénat, comme on sort un lapin du chapeau, où la majorité ne lui est pas acquise, sans concertation préalable, sans l'avis du Conseil d'État, l'amendement a été rejeté en commission. Il y a eu un seul oui, l'ex-socialiste Alain Richard, aujourd'hui macronien.
Que prône vraiment cet amendement ?
Eh bien, que les électeurs pourraient voter le mercredi, soit 4 jours avant le dimanche, sur une machine à voter, dans une préfecture ou une commune dont la liste serait arrêtée ultérieurement par le ministère. Que d'inconnus. Alors, le but de la manœuvre, c'est réduire l'abstention. Mais l'élection présidentielle est celle où les Français votent le plus. Alors, ça vise qui ? Des bobos urbains qui veulent partir en week-end ? Ben, y a la procuration. Des retraités qui sont loin de leur commune d'inscription ? L'amendement dit que la mention de leur lieu d'inscription serait bien notée dans la machine, pour éviter le vote double. Et vous voyez qu'en période de rodage, le système pourrait révéler des anomalies, donc d'éventuels recomptages. On pense à l'exemple américain.
Ouais. Et des machines à voter, en plus, il n'y en a pas beaucoup en France.
Dans 66 villes, dont Le Havre, Boulogne, Mandelieu, Orange, et à la grande satisfaction des maires qui disent que c'est très rapide, très facile pour les personnes âgées, jamais de fraude, elles étaient autorisées depuis 1969, mais en 2008, le Conseil constitutionnel, présidé par Jean-Louis Debré, avait évoqué des fautes possibles, d'où un moratoire. Alors depuis, impossible de s'en équiper pour les maires qui doivent rafistoler des machines, certaines ressemblent à des voitures américaines à Cuba. Au fait, où les achèterait-on ces machines pour 2022? Mais il n'y a pas de Made in France.
Alors c'est quoi? C'est un ballon d'essai?
Oui, non transformé. L'Association des maires de France dénonce une initiative désordonnée, mal pensée, en clair, une lubie présidentielle. Les sénateurs diront non cet après-midi. Le gouvernement n'imposera rien, dit Christophe Katzaner. Il a raison. Circuler, il n'y a plus rien à voir.
L'édito politique signé Catherine Ney sur Europe 1.
C'était l'édito politique de Catherine Ney avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
La météo à 7h58 avec vous, Laurent Cabrol.
De la douceur.
Allons-y, de la douceur.
De la douceur et de la pluie, malheureusement ou heureusement. Aujourd'hui, il pleuvra. Alors, la pluie va se manifester essentiellement en trois parties ou en trois temps, ou plus exactement des pluies un petit peu éparpillées. Pourquoi ? Parce que nous avons trop la perturbation, c'est scindé en trois endroits. Et nous avons à la fois un petit passage actuellement, là, sur le nord de la capitale. Nous avons encore derrière sur la Bretagne. Nous en avons encore un petit peu en mer. Bon, tout le monde sera servi, disons-le. Hein. Non seulement les côtes de la Manche, mais aussi la Vendée. Le Nord, la vallée de la Loire, le Berry, le Poitou-Charentes, la région parisienne, tout le monde sera servi à un moment ou l'autre de la journée, plutôt cet après-midi sur l'Aquitaine et les Limousins. Et puis certains attendront, ou peut-être ne l'auront pas du tout, le Midi-Pyrénées, le Mâconnais, la Lorraine, l'Alsace et puis la Franche-Comté. Sur le bassin méditerranéen, je regardais à l'instant que nous allions avoir un passage pluvieux assez intense, notamment dans le delta du Rhône, où les pluies se manifestent déjà à l'heure où nous parlons. Les températures seront douces, entre 13 et 17 degrés.
Merci Laurent Cabrol. Journal de 8h dans quelques secondes.